Merci pour l'invitation et très content d'être ici, de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Voilà, donc je viens d'Aix-en-Provence, enfin pas d'origine, hein. Je suis d'Orléans. Normalement, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont de la région centre ici, mais je suis un peu fier. Voilà, je suis un peu fier de ma petite région là. Ouais, je viens du département du Loiret, d'Orléans. J'ai grandi là-bas, j'ai passé toute ma vie là-bas. C'est ma ville, c'est Orléans quoi. Et donc voilà, je suis pas vraiment né à Orléans, moi je suis né plutôt à Saint-Denis dans le 93, mais j'ai jamais connu Saint-Denis, je suis plutôt d'Orléans. Voilà, donc je suis à Aix-en-Provence depuis un an et demi, je suis en faculté de théologie, ça se passe très bien, c'est là-bas que j'ai rencontré Virginie, et voilà, donc j'étudie pour éventuellement être pasteur, par la grâce de Dieu. Voilà, donc c'est très, vraiment une joie de pouvoir venir ici. J'ai pu parler avec les anciens déjà avant par Internet, par Skype, et c'était vraiment un bon moment de voir que cette église a vraiment le désir de servir le Seigneur, de vraiment avancer, de pouvoir faire avancer le royaume de Dieu. Et je l'espère, je ne sais pas, c'est le Seigneur qui a ses plans, pouvoir faire partie de ce projet. On verra, c'est Dieu qui décide en fait. Donc voilà, très content en tout cas d'être ici parmi vous. On aura l'occasion peut-être à parler un peu plus après. Là, on va passer au message. Donc, pour introduire le message, je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre de Job au chapitre 17. Ce sera notre texte du jour. Job au chapitre 17, et nous allons lire tous les versets, donc du premier verset jusqu'au verset 16. Et de temps en temps, nous ferons des petits sauts dans le chapitre 16. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas perdus. On va pas lire tout le chapitre 16, c'est beaucoup trop long. On va lire d'abord principalement le chapitre 17 et il y aura des petits détours dans le chapitre 16. Job chapitre 17, lisons la parole de Dieu. Mon souffle se perd, mes jours s'éteignent, la tombe m'est réservée. N'y a-t-il pas de moqueurs autour de moi ? Et mon œil doit veiller à cause de leurs insultes. Sois donc mon garant auprès de toi-même. Qui d'autre prendrait des engagements pour moi? Car tu as fermé leur cœur au discernement. Aussi ne les laisseras-tu pas triompher. On invite des amis au partage du butin, mais l'on a des fils dont les yeux se consument. Ils m'avaient placé pour dominer les peuples, mais je suis devenu celui à qui l'on crache au visage. Mon œil est obscurci par l'irritation. Tous mes membres sont comme une ombre. Les hommes droits en sont stupéfaits. Et l'innocent se soulève contre l'impie. Le juste, néanmoins, demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Mais vous tous, recommencez et venez donc. Je ne trouverai pas un sage parmi vous. Mes jours sont passés, mes projets sont anéantis. Les désirs de mon cœur... Et ils prétendent que la nuit, c'est le jour, que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. N'est-ce pas le séjour des morts que j'espère pour demeure? C'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. Je crie au gouffre, c'est toi mon père, et à la vermine, ma mère et ma sœur. Mon espérance, où donc est-elle? Mon espérance, qui peut la percevoir? Elle descendra vers les barreaux du séjour des morts, quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. C'est la parole de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous venons devant toi avec révérence, avec respect devant toi et devant cette parole qui est sainte. Seigneur, nous tremblons à la lecture de ces mots et nous savons que ce sont des paroles inspirées que ton Saint-Esprit a écrites. Nous voulons que tu nous enseignes ce matin, que tu nous donnes vraiment de comprendre le message. Oh oui, tu veux nous parler à travers le personnage de Job et tu veux vraiment nous enseigner à nous confier en toi et nous appuyer sur toi, comme nous venons de le chanter. Père, bénis ce message, prépare nos cœurs à recevoir de toi. Prépare nos cœurs vraiment à être concentrés, attentifs, vigilants à ta voix. Te prions vraiment que ton esprit nous aide à comprendre ce que lui-même a écrit, afin que nous soyons des hommes et des femmes affermis et prêts à combattre pour le bon combat, et prêts aussi à t'adorer, à te louer comme il se doit. Que ton nom soit béni, notre Père, par Jésus-Christ. Amen. J'aimerais commencer ce message avec une histoire. En fait, pour trouver le thème de ce message d'aujourd'hui, ce n'a pas été simple. Ce n'est jamais simple de toute façon. Mais ça a été vraiment, en fait, ça est venu assez rapidement. J'étais en stage à Mulhouse pendant 3 semaines, du 20 janvier jusqu'au 10 février. Puisqu'en fait, à la faculté, on doit faire un stage dans l'année. Et le stage que j'ai fait, c'était à Mulhouse, à l'église de la Maison de l'Évangile. Donc je suis allé pendant ma deuxième semaine, je pense que c'est la deuxième semaine de stage. Bon, j'ai mon petit rituel du matin, je me lève, je prie, je prends le petit déjeuner avec le pasteur. Voilà, lui il se lève beaucoup plus tôt, moi je suis un couche-tard. Hein. Mais voilà, donc on prend le petit déjeuner ensemble, et puis voilà, chacun va travailler de son côté, puis on se revoit un peu vers 11h pour prier. Donc voilà, moi je consulte les infos, comme j'écoute, et puis je vois cette histoire qui m'a vraiment troublé, vraiment. Excusez-moi si vraiment il y a des mots qui vont vous choquer, mais c'est vraiment une histoire qui m'a vraiment troublé, et en la lisant, cette histoire, j'ai vu vraiment le message de ce matin. Donc c'est une histoire qui parle du désespoir. Donc je vous lis vraiment, je vais vous résumer en fait l'histoire sous mes mots. Donc ça se passe en 2014, le 22 juillet, sur le parking d'un supermarché de Fairhaven, dans le Massachusetts, aux États-Unis. Un jeune homme qui s'appelle Conrad Roy, il a 18 ans. Il est au téléphone avec sa copine, qui s'appelle Michelle Carter. Et donc, Conrad va remplir sa camionnette avec du monoxyde de carbone. Et puis, il va entrer dedans, et va boucher toutes les ouvertures. Quelques minutes plus tard, il va ressortir, quasiment en toussant très fort, et il va discuter avec sa copine, assez longtemps. Et pourtant, sa copine lui insiste et lui dit « Retourne dans la camionnette !» Alors, Conrad va y retourner. Il y retourne et il continue de discuter avec elle et il tousse de plus en plus. Et il se sent de plus en plus mal. Et finalement, il va succomber. Il va mourir. Et quelques semaines avant cela, quand on regarde en fait, Conrad avait déjà des envies de suicide et il en faisait part à sa copine. C'est un homme qui est troublé psychologiquement, perdu mentalement, désemparé moralement. Il a vécu beaucoup de choses, mais c'est quelqu'un qui est très, très perdu. Il va demander du coup à la personne qui est la plus à même à le conseiller à ces moments-là, sa copine. Mais sa copine, voilà comment elle répond. Elle lui dit « Fais quelque chose rapidement, fais quelque chose qui va mettre fin à tout ça, sans douleur. » Et quand il lui fait part de son passé, de ses regrets, elle lui répond « Mais vas-y, suicide-toi alors. » Et puisque Conrad est très sensible, il ne sait pas, il dit « Mais tu penses que je devrais le faire ?» Il ne sait pas. Et on trouve même d'autres messages, des SMS, des textos sur le téléphone de Michelle Carter qui montrent qu'elle était énervée que Conrad n'aille même pas au bout de sa pensée. Par exemple, il y a des messages assez forts qui disaient « Voilà, saute d'un immeuble, les façons de faire, de se suicider ne manquent pas. » Et 3 ans plus tard, en 2017, cette affaire va aller en justice et Michelle Carter est condamnée à 2 ans de prison, donc 15 mois ferme, pour incitation au suicide. Alors elle va faire appel, mais le 7 février, donc il y a 2 semaines, là où j'ai lu la news, son appel est rejeté et donc la condamnation est confirmée. Et son avocat pourtant plaidait, disait que non, elle a des troubles psychologiques. Faut l'excuser, elle pouvait pas réfléchir comme ça. Mais il y a des preuves accablantes et surtout le fait que Michelle montrait souvent ses SMS qu'elle envoyait à Conrad, à sa meilleure amie. Elle disait si vraiment la police trouve ça, c'est terminé. Et pourtant, ça a été trouvé. Et donc cette sombre histoire, en fait, nous enseigne quelque chose. Déjà, ça nous enseigne que ça nous rappelle que le cœur de l'homme est vraiment mauvais, incurable, et que vraiment l'homme est un loup pour l'homme. Mais aussi le fait que le désespoir, c'est vraiment une arme de destruction massive. Vous avez vu l'histoire avec ce jeune homme, désespéré, qui en va jusqu'à se donner la mort. Et quand la souffrance des fois nous accable, et quand les soucis se multiplient, quand la douleur est intense, on a des pensées de désespoir, on est plongé dans le désespoir. Alors moi, c'est une question que je me pose, mais je vous pose aussi. Est-ce qu'en ce moment, vous êtes peut-être dans le désespoir? Est-ce que vous avez connu le désespoir? Hier, je parlais avec Jean et Chantal qui me rappelaient vraiment tout ce qu'ils ont fait pour les migrants et toutes ces histoires qu'ils m'ont racontées. Et on peut voir vraiment des personnes peut-être qui ont été désespérées, qui ont connu le désespoir, qui connaissent le désespoir et qui ont peut-être touché le fond au point même de désirer la mort. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de demander vraiment au Seigneur « ça ne va plus, je n'y arrive plus, je suis trop désespéré ». Ça peut nous arriver. Et c'est ce qui aussi est arrivé à Job dans l'histoire que nous venons de lire. Donc nous allons nous intéresser à ce texte, vraiment nous allons essayer de prendre notre temps pour comprendre le pouvoir du désespoir, est-ce qu'il y a une issue à ça? Regardons donc ce texte sous quatre points. Le premier point, ce sera tout simplement le désespoir peut nous laisser seuls face à nous-mêmes. Il a cette capacité de nous laisser seuls face à nous-mêmes. Regardons déjà le désespoir. Qu'est-ce que c'est que le désespoir? Quand on regarde dans les dictionnaires classiques, moi je vous dis que quand j'étais petit, je lisais beaucoup le dictionnaire. Je préférais lire ça plutôt qu'aller à l'école, mais je me rappelle très bien de ce petit Larousse que j'avais, qui était sur le coin de ma table, et je m'amusais à lire à chaque fois. Et là, en relisant chez moi la définition du désespoir, on dit que le désespoir, c'est une perte de toute espérance. Un abattement total de quelqu'un qui a cessé d'espérer. Une affliction profonde, une détresse, une désespérance. C'est un peu, je ne sais pas s'il y en a qui sont fans de sport ici, un peu comme ce qui s'est passé en 2016 avec l'équipe de France, quand on n'a pas gagné le championnat d'Europe. Moi, je peux vous dire que j'étais très désespéré. Personnellement, je n'ai pas beaucoup dormi. Ça a été compliqué, surtout de voir qu'on fait un poteau juste avant. Enfin bref, je ne me rappelle pas des mauvais souvenirs, mais heureusement, il y a eu 2018 quand même. Le Seigneur, dans sa grâce, a pensé à nous. Donc on voit quand même que on était désespéré, mais pas trop quand même. C'est quand même. Mais en tout cas, cette définition, quand on la regarde, il y a vraiment des mots qui sont forts. Affliction, détresse, désespérance. Ce sont des mots qui sont forts et en fait, ça montre que la sérénité et la confiance disparaissent quand on est dans le désespoir, pour faire place au doute et à l'angoisse. Des caractéristiques qu'on trouve dans tout le livre de Job, jusqu'à la réponse de Dieu à partir des chapitres 38 et suivants. Mais on voit vraiment que Job est quelqu'un de désespéré. Et donc on va s'intéresser un peu à ce personnage. Peut-être vous n'avez jamais lu ce livre de Job, peut-être vous l'avez déjà lu, survolé. Mais juste rapidement, qu'est-ce qui se passe? Juste avant ce chapitre 17, Job, on a déjà dès le premier verset au chapitre 1, chapitre 1er, on nous apprend que Job c'est un homme intègre et pieux, qui marche devant Dieu. Et ce témoignage, c'est pas un homme qui le donne, c'est pas un président, c'est Dieu lui-même qui dit que Job, quelqu'un d'intègre et pieux, qui marche devant ma face. Et pourtant, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. Et c'est Satan. Satan va venir devant Dieu et lui dire que non, écoute Dieu, si Job est vraiment intègre, c'est juste parce que tu lui as donné ceci, que tu lui as donné cela. Essaie de lui retirer cela, tu vas voir, il va te renier. Et donc, comme Satan n'est pas puissant, il est obligé d'avoir la permission de Dieu, Dieu lui dit d'accord, écoute, vas-y, agis. Enlève-lui tous ses biens, mais je garderai son âme. Et donc, Satan va s'attaquer vraiment à Job. Il va lui enlever tous ses biens. Il va lui enlever aussi ses enfants. Et Job va se retrouver même malade. Et Job va vraiment connaître la souffrance et l'affliction totale. Il va être malade, privé de tout ce qui lui est cher. Et Job va même être abandonné par sa femme. Il y a sa femme qui lui dit, mais écoute, c'est tellement difficile, qu'est-ce que tu fais? Ben, maudis Dieu et meurs. Un peu comme la fille nous avons vu dans notre introduction. Non seulement lui, mais aussi ses trois amis. Nous allons même voir dans ce texte-là, et même dans le chapitre 16, les trois amis de Job n'auront même pas des bons conseils pour le conseiller. Donc Job est vraiment seul. Il est seul devant Dieu, désespéré, désemparé. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il est affaibli et perplexe. Et on va voir que tous ces chapitres, à partir du chapitre 4, même chapitre 3, Job va poser beaucoup de questions à Dieu. Il va dire, mais c'est pas normal. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi tout ça? Moi, je veux une réponse. Et on va regarder le verset 1, on retourne au chapitre 17, pour comprendre les inquiétudes qui sont un germe du désespoir, comment elles peuvent nous détruire physiquement. Regardez le verset 1 avec moi du chapitre 17. Job dit, « Mon souffle se perd, mes jours s'éteignent, ma tombe m'est réservée. » Et un peu plus bas, dans le verset 7, on lit, « Mon œil est obscurci par l'irritation, tous mes membres sont comme une ombre. » Et on peut lire aussi un peu au chapitre 16, au verset 16, donc juste un peu plus haut, chapitre 16, au verset 16, Job dit ceci, « Mon visage est rougi à force de pleurer, l'ombre de la mort est sur mes paupières. » Ce sont des tristes descriptions. On voit que Job est harassé par la situation, que physiquement, il en perd toute sa force. Qu'à force de contester avec Dieu, de se poser trop de questions sur ce qui lui arrive, il ajoute plus de problèmes, en fait, qu'il n'en retire. Il a déjà des problèmes, mais le fait de se poser autant de questions, il se pose encore plus de questions et ça lui ajoute plus de problèmes. On se rappelle peut-être des paroles de Jésus sur le sermon sur la montagne, qui disait dans Matthieu 6, « Qui de vous peut, par ses inquiétudes, rallonger un tant soit peu la durée de sa vie ?» Jésus parlait des inquiétudes, et il disait, « Mais qui peut rajouter un peu de sa vie avec ses inquiétudes ?» C'est évidemment une question rhétorique. Personne. Et certainement pas Job, qui est en train de se poser trop de questions ici, et qui est en train d'être détruit physiquement par le fait d'être désespéré. Job, en fait, nous rappelle un peu le prophète Élie. Prophète Élie, qui, grand prophète, vraiment, le plus grand prophète de l'Ancien Testament, qui vraiment avait une foi inébranlable, ce même Élie, qui a gagné la bataille contre les prophètes de Baal, qui était un dieu païen, qui était adoré par Jézabel, et dont Akab faisait aussi une sorte d'adoration, d'alliance, Akab qui était le roi d'Israël à l'époque. Il y a une espèce de bataille qui se passe sur le mont Carmel entre les prophètes de Baal et Élie. Et donc les prophètes de Baal invoquent le dieu Baal pour qu'il y ait la pluie qui descende, mais la pluie ne descend pas. Et même le feu ne descend pas. Mais Élie lui prie l'Éternel et le miracle s'accomplit. Et donc ensuite, les prophètes de Baal sont massacrés. Après cette victoire, Élie il est content, tout ça, mais il y a un messager qui vient pour parler à Élie. Et lui dire, voilà, Jézabel va venir te tuer à l'instant. Et là, donc, Élie fuit dans le désert, et Élie prie l'Éternel, et dit, ça suffit, je n'en peux plus. Ça fait des années qu'Élie se bat pour la gloire de l'Éternel. Des années qu'il essaye vraiment de conserver l'intégrité du peuple, de conserver le nom de l'Éternel, de le sanctifier. Et voilà que Jézabel vient encore pour ajouter un autre problème, encore une fois, sur Élie. Élie est tout seul. Et il se dit, c'est pas possible, je demande la mort. Il dit, ça suffit, prends mon âme, Seigneur, je n'en peux plus. La situation est trop harassante. Il est âgé, fatigué de lutter. Fatigué mentalement, physiquement, moralement, de lutter tout seul. Oui, on peut parler d'Élie, on peut parler de beaucoup de personnages dans la Bible, mais surtout, Job est vraiment la personnification de cette personne qui, à cause du désespoir, se retrouve vraiment fatigué et harassé. Et quand on regarde la situation de notre pays, vous voyez en ce moment les gilets jaunes, tout ça, mais on voit quand même que la France est quand même le premier pays d'Europe en consommation d'antidépresseurs. C'est incroyable. La cinquième puissance mondiale. Premier pays de consommateurs d'antidépresseurs. Est-ce vraiment normal? Une superpuissance comme la France? Mais je pense que même cette crise de gilets jaunes reflète le mal-être qu'il y a dans notre société. Le problème, les gens sont seuls, les gens vivent dans le désespoir. Ils ne voient pas dans la politique la solution, ils ne voient pas dans leur train-train quotidien une amélioration. Malgré l'argent, malgré le travail, il y a toujours le désespoir. Et pourtant, nous sommes dans un pays riche. Quel paradoxe. Peut-être vous êtes aussi, vous en faites partie, peut-être vous posez aussi des questions, vous êtes désespéré devant cette situation. Mais on voit que le désespoir peut nous faire mal physiquement. Et parfois aussi, dans le désespoir, l'entourage qu'on a peut être aussi parfois, pas toujours, parfois un piège plus qu'une aide. Regardez avec moi encore le verset 2 du chapitre 17 de Job. Le verset 2 qui dit « N'y a-t-il pas de moqueurs autour de moi, et mon œil doit veiller à cause de leurs insultes ?» Et encore plus bas, le verset 6 « Ils m'avaient placé pour dominer les peuples, mais je suis devenu celui à qui l'on crache au visage. » Et puis encore le verset 10, « Mais vous tous recommencez, venez donc, je ne trouverai pas un sage parmi vous. » Job voit chez ses trois amis des moqueurs, il les appelle des moqueurs. Ce sont ses trois amis qui sont venus le voir au moment où Satan est venu l'attaquer. Et voilà qu'il dit, ce sont des moqueurs. En fait, il est en train de critiquer leur théologie, parce que quand on lit les réponses de ses trois amis, ils ont une espèce de théologie froide, un peu une sorte de c'est un peu des conseils vraiment juste préfabriqués comme ça, pour toute situation, voilà, tu dois faire ça, 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 ça. Il y en a un qui dit, oui, si il t'arrive ces choses, c'est parce que tu as péché, et donc tu dois vraiment te repentir et tout ça. D'autres qui disent, oui, mais Dieu est souverain, il punit le méchant, il punit tout ça. Donc des conseils vraiment bateaux, quoi, vraiment des conseils très froids, pas vraiment plein de compassion. Et ce sont des conseils qui n'ont tout simplement pas leur place. À ce moment-là, Job est désespéré, il a besoin de compassion. Et ces gens viennent avec leur théologie pour un peu dire que, voilà, c'est de ta faute en fait, si tu es dans cette situation. Dieu te frappe parce que c'est de ta faute. Donc pour ces trois amis, hein, Tsophar, Bildad et Eliphaz, on a leur prénom, c'est pour eux, Job a péché, et c'est pour ça qu'il est comme ça devant Dieu. Il a peut-être insulté Dieu, et c'est pour ça que Dieu le corrige. Un peu plus tard dans le livre de Job, c'est cet argument qu'on retrouve. Et Job, en fait, selon eux, il n'a qu'à se repentir. Et comme il est marqué au verset 12 que nous lisons, regardons encore le verset 12, là Job cite en fait ses amis, dans le verset 12 il dit « Et ils prétendent que la nuit c'est le jour, que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. » Donc en clair, quand il se repentira, le jour viendra et puis tout va repartir de l'avant et tout ça et tout ça et tout ça. Donc vraiment c'est la faute de Job. Mais quand on regarde attentivement ce texte de Job, c'est faux. Ils ont tort, Job n'a pas péché. Job n'a pas insulté Dieu, Job n'a pas blasphémé, non. Depuis le chapitre 1 jusqu'à notre péricope ici au chapitre 17, on ne voit pas Job commettre un péché qui justifierait sa situation. Job n'est pas coupable, non. Nous qui avons l'arrière-plan, nous savons ce qui s'est passé. Mais pour Job, il est certain que non, il n'a pas péché. Et donc Job, sa réaction, c'est que maintenant il va être contre ses amis. Regardons encore le verset 5. Le verset 5 qui dit... On invite des amis au partage du butin, mais l'on a des fils dont les yeux se consument. En fait, l'idée, c'est vous donner des mauvais avis, et bien vous verrez, l'Éternel va se charger de vous. Il va se charger de vos enfants. Et on voit aussi le verset 8, relisons le verset 8. Le verset 8 qui dit, les hommes droits en sont stupéfaits, et l'innocent se soulève contre l'impie. L'impie, entre guillemets, c'est ses amis, parce que leurs conseils sont vraiment des mauvais conseils. Il y a un fameux proverbe qui dit, comme je l'ai dit, hein, l'homme est un loup pour l'homme. Donc même dans la meilleure des volontés, des fois les amis peuvent se retrouver comme des ennemis à cause des mauvais conseils. Et le désespoir nous montre parfois que tellement nous sommes désespérés, les gens n'arrivent pas à comprendre notre situation et on va les voir comme des ennemis. Et en fait, Job ne peut compter que sur lui-même. Étant donné que ses trois amis l'ont rejeté, plus ou moins avec leurs conseils mauvais, Job va dire, regardez le verset 8, qu'il est tout seul. Le verset 8 qui dit, le verset 9, pardon, le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie, celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Donc il se voit comme juste. Job n'a aucun problème, il n'a aucun péché, il se voit comme juste. Donc premièrement, Job vraiment se voit comme juste, donc il peut compter sur lui, sur lui-même, dans sa défense devant Dieu. Et deuxièmement, on voit que Dieu permet que ses amis ne comprennent pas. Relisez le verset 4 avec moi. « Car tu as fermé leur cœur au discernement, aussi ne les laisseras-tu pas triompher. » Donc les amis donnent des conseils parce que Dieu ne leur a pas donné l'éclairage sur la situation. Il ne leur a pas montré que c'est une épreuve que Dieu envoie à Job. Donc ils ne peuvent pas comprendre. Et à cause de tout cela, Job ne peut pas compter sur sa femme, il ne peut pas compter sur ses amis. Il va compter que sur Dieu. Regardons le verset 3. Le verset 3 qui dit « Sois donc mon garant auprès de toi-même, qui d'autre prendrait des engagements pour moi ?» Donc Job prend son appui, son vrai soutien sur Dieu, mais pourtant, comme on va le voir tout à l'heure, c'est ce même Dieu qu'il est en train de critiquer. Donc c'est bizarre. Il compte sur Dieu pour se défendre contre ses amis, mais ce même Dieu, il lui pose des questions, il ne comprend pas, il est troublé devant ce qui lui arrive. Donc l'attitude des amis de Job est une indication pour toute personne, que ce soit nous ou des personnes qui sont autour de nous. Il faut faire attention à ce que l'on dit, faire attention aux conseils, faire attention à quand on approche. Il faut une parole assaisonnée de grâce, il faut vraiment de la compassion et des fois, il faut tout simplement ne pas parler, juste écouter la personne, juste l'écouter, la voir, la prendre dans ses bras, prier avec elle. Et certainement pas amener des conseils qui sont juste « voilà, si t'arrives ça, c'est que t'as péché » ou « voilà, si t'arrives ça, c'est parce que ceci, cela ». On ne sait pas. Il faut tout simplement laisser la personne parler et avoir la compassion pour elle. Donc voilà, comme on vient de le voir ici, pour résumer en fait, on a compris que le désespoir, c'est être abattu, être affligé, être en détresse. Quand on voit l'histoire de Job, Job a tout perdu. Il en souffre physiquement à cause des inquiétudes. Et les inquiétudes font germer le désespoir. Et dans les moments difficiles, l'entourage parfois, pas toujours, peut s'avérer être un piège au lieu d'une aide. On voit que les trois amis de Job n'ont pas cette lucidité sur la situation et ils répondent à côté, complètement à côté. Et au lieu d'ajouter de la sérénité, de la confiance à Job, ça lui ajoute plus des inquiétudes, davantage. Donc, le désespoir peut nous laisser seuls face à nous-mêmes. Deuxièmement, le désespoir peut troubler notre vision sur Dieu. Les arguments de Job. Donc, si Job en fait parle ainsi dans tout le chapitre 17 comme nous avons vu, si Job a cette façon de parler, c'est parce qu'en fait il est convaincu de plusieurs choses. Premièrement, Job est convaincu d'être innocent. Rappelez-vous, il dit qu'il s'appelle, il est juste. Dans le texte, que je relis encore ce verset 9, où il dit « Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie, celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. » Job est convaincu d'être innocent, exempt de tout péché, comme je l'ai lu. Et même avant, dans le chapitre 16, au verset 17, qu'est-il écrit ? Chapitre 16, verset 17, « Je n'ai pourtant commis aucune violence. » Et ma prière est toujours pure. Et un peu plus haut, chapitre 13, qu'on n'est pas obligé de regarder rapidement, Job dit, « Quel est le nombre de mes iniquités, de mes péchés ? Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. » Donc, Job est convaincu qu'il est innocent. Donc, sa situation n'a rien à voir avec le fait d'avoir commis un péché. Deuxièmement, Job estime que sa plainte envers Dieu est légitime. Encore là, avant, au verset 13, il disait, « Me voici prêt, pardon, au chapitre 13, il disait, « Me voici prêt à plaider ma cause. Je sais que j'ai raison. » Job est convaincu que s'il plaide devant Dieu, c'est légitime, parce qu'il n'a rien à se reprocher. Problème, une logique, cette telle logique l'amène à voir Dieu non pas comme un ami, mais comme un ennemi, parce que Job est troublé par le désespoir. Il dit qu'il n'a rien à se reprocher. Alors il va faire un diagnostic qui va s'avérer effroyable. Regardez avec moi le chapitre 16 à partir du verset 9. Job 16 à partir du verset 9. Regardons comment Job décrit l'Éternel. Lisons. « Sa colère me déchire et s'attaque à moi. Il grince des dents contre moi. Mon adversaire aiguise ses regards vers moi. Ils ouvrent toute grande leur bouche contre moi pour me déshonorer. Ils me frappent des joues. Ensemble, ils se pressent après moi. Dieu me livre à la merci des gamins. Il me précipite entre les mains des méchants. J'étais tranquille et il m'a secoué. Il m'a saisi par la nuque, il m'a brisé, il m'a redressé pour lui servir de cible. Ses projectiles m'environnent de toutes parts. Il me perce les reins sans ménagement. Il répand ma bile sur la terre. » Etc, etc, etc. Donc les paroles de Job sont vraiment terrifiantes. Je ne sais pas vous, mais vraiment moi, quand je relisais ça, je dis, c'est vraiment terrifiant. Donc pour Job, Dieu c'est un être qui en fait n'est pas un être d'amour. Il est plein de colère, qui afflige le juste, sans raison, sans motif apparent. C'est un lion féroce, un adversaire, un guerrier, une brute, qui prend ses justes et qui les brise par la nuque. C'est vraiment une triste conclusion. Tout ça, c'est à cause du désespoir. Job est tellement désespéré qu'il voit que l'Éternel et plus un ennemi qu'un ami. C'est ce même Dieu qui avait donné pourtant un bon témoignage à Job, rappelez-vous, je l'ai dit. Dieu témoigne devant Satan, il dit « Job, c'est un homme pieux, quelqu'un qui marche devant moi avec crainte. » Mais voilà comment Job répond à cause de sa situation. Il voit que l'Éternel est un adversaire plus qu'un ami. Donc vous voyez comment le désespoir joue un rôle vraiment prépondérant chez les personnes. Quand on est plongé dans ce désespoir, quand on est plongé dans les doutes, plongé dans les preuves, notre vision de Dieu peut être changée, altérée. Des fois, on voit que Dieu est vraiment notre Père, mais à cause de ça, on voit que Dieu est notre ennemi. Comme si Dieu avait changé, comme si Dieu était en train d'être contre nous. Alors que c'est faux. Comment Dieu peut être l'adversaire de ses enfants ? Le psalmiste même, dans le psaume 5, disait que Dieu résiste aux pécheurs et aux injustes, mais que Dieu est favorable aux justes. Alors, est-ce que c'est vraiment ce Dieu-là que Job est en train de parler ? Moi, je ne sais pas, mais est-ce que ça vous est vraiment déjà arrivé de parler comme ça, devant le Seigneur, consciemment, inconsciemment, de dire que Dieu, vraiment, là, tu es contre moi, ou c'est n'importe quoi ? Moi, en tout cas, ça m'est arrivé. Je préfère vous dire la vérité, ça m'est déjà arrivé. Je me souviens surtout d'une anecdote pas très glorieuse. J'étais en Angleterre, c'était il y a fort longtemps, hein. J'étais en Angleterre pour un concert, et je devais regagner ma chambre d'hôtel qui était à l'autre bout de Londres. Et donc, je me dis, bon, bah, je vais prendre mon temps et puis ensuite, je vais rentrer. Donc, après le concert, je me suis baladé, je rentre. Et là, au moment où je prends un billet, ma carte bleue ne marche plus. Donc, je dis, oulala. Et en plus, j'avais plus de pièces. Je me dis, bon, d'accord, je vais demander aux gens autour de moi, tout ça. Personne ne s'arrête pour me donner ou pour essayer de me dépanner, pour me faire avancer à la chambre d'hôtel. Alors là, je me dis, bon, ben, faut marcher. Donc, j'ai marché tout le long du fleuve pendant au moins 2,5 km ou 3 km jusqu'à la gare. Et là, j'arrive, il n'y a plus de train. Plus de train pour le soir, plus de train le lendemain. Donc là, je me dis, je vais dormir à la gare, c'est pas possible. Donc, j'ai commencé à me poser des questions et même pendant que je marchais sur mon chemin, c'était dans le noir, il n'y avait pas de lumière vraiment, il pouvait m'arriver toute chose. Mais vraiment, j'étais effrayé. Je me dis, c'est pas possible. Ma carte bleue qui marche plus et je me dis, bon, je vais voir peut-être sur mon téléphone. Ah, plus de batterie. Je me dis, c'est pas possible. Donc vraiment, tout était contre moi. Et donc, je dis, mais Seigneur, mais tu es où? Tu fais quoi là? J'étais encore jeune. Je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Je vais rentrer ou pas? Plus de carte bleue, plus de téléphone pour appeler. Personne me donne à manger. Personne me donne une pièce pour payer mon ticket. J'étais vraiment tout seul. Et vraiment, j'étais vraiment en colère contre Dieu. Je me disais, mais Dieu, c'est pas possible. Tu peux pas faire comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de me prendre, de me laisser me livrer à moi-même comme ça, en plein milieu d'un pays qui n'est pas le mien, où je ne peux même pas rentrer dans ma chambre d'hôtel. Donc j'étais vraiment en colère contre Dieu. Et pourtant Dieu était en train de me protéger, je ne le voyais pas. Dieu m'avait protégé de ce lieu du concert jusqu'à la gare, et le lendemain, j'ai quand même pu prendre un billet, et je suis rentré. Mais vous voyez comment j'étais désespéré, et je voyais que Dieu était vraiment contre moi, alors que ce n'était pas du tout le cas. Toute cette histoire nous rappelle donc, pour résumer vraiment, que le désespoir trouble notre vision de Dieu. Quand on est désespéré, on se dit, mais vraiment, Dieu est contre moi. Alors que c'est faux, Dieu ne change pas. On dit que Dieu est immuable, donc il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et à tout jamais. Mais c'est nous qui changeons. C'est nous qui avons une mauvaise vision de Dieu à cause de notre épreuve, de notre situation. Donc voilà, pour résumer, c'est ça en fait, que le désespoir trouble notre vision de Dieu. On voit que Job n'avait rien à se reprocher, et c'est vrai, il n'avait rien à se reprocher, que son traitement est donc inexplicable d'un point de vue logique. Mais le problème avec la logique, c'est qu'on peut aller n'importe où avec la logique. Et on l'a bien vu, il voit vraiment que Dieu est son ennemi et son adversaire. Ça, c'est à cause du désespoir qui trouble notre compréhension de Dieu. Donc, le désespoir peut nous laisser seuls face à nous-mêmes. Le désespoir peut troubler notre vision de Dieu. Et troisièmement, le désespoir peut nous laisser penser que la mort est la seule issue. Par deux fois, dans notre texte de Job 17, Job indique qu'il n'y a plus d'espérance pour lui sur cette terre. Regardez encore avec moi le verset 1 du chapitre 17. « Mon souffle se perd, mes jours s'éteignent », verset 1, « la tombe m'est réservée ». Et verset 11, un peu plus bas, « mes jours sont passés, mes projets sont anéantis ». Les désirs de mon cœur, et il ne finit pas sa phrase. Donc avec une telle vision morbide, on va dire, de la situation, on voit que tous les soutiens sont partis. La femme de Job, les trois amis, Dieu lui-même, il se dit que Dieu lui-même l'a abandonné. Donc il se dit, non, de toute façon, il n'y a que la mort. Je vais voir ce Dieu, je vais lui parler face à face et lui dire que c'est pas normal de me traiter comme ça. Et donc il n'a plus d'espérance. Et quand on n'a plus d'espérance, qu'est-ce qu'il reste? Il reste que la mort. Regardons avec moi le verset 13. Le verset 13, Job qui dit, « N'est-ce pas le séjour des morts que j'espère pour demeure? C'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. » Et le verset 16, « Son espérance, elle descendra vers les barreaux du séjour des morts, quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. » Pour Job, il n'y a pas d'autre choix. La mort, il n'y a que la mort. La situation est tellement désespérante qu'il n'y a que la mort. Même au chapitre 13, dans le chapitre 13, Job disait ceci, il disait « Que Dieu me tue, je n'attends rien, mais devant lui, je veux défendre mes voies. » Non, son seul objectif, c'est vraiment sa justification. Il dit « Non, je n'ai rien fait, ce n'est pas normal. Je veux voir ce Dieu, je veux lui montrer que non, cette situation n'est pas normale. » Et pourquoi Job en fait parle ainsi? Mais Job n'a plus d'espérance. Relisez avec moi le verset 15. Qu'est-ce que dit Job au verset 15 du chapitre 17? Il dit, Mon espérance, où donc est-elle? Mon espérance, qui peut l'apercevoir? Voilà ce qu'il dit au verset 15. Il n'a plus d'espérance. Il est désespéré, fatigué, usé. Il veut une explication devant Dieu. Cette situation montre que parfois, comme on l'a vu avec notre personnage dans l'introduction, ce jeune homme Conrad Roy, que lorsqu'il y a trop de problèmes, qu'on est désespéré, désemparé, qu'on n'a pas d'espoir, il n'y a que la mort qui se trouve devant nous. Et parfois, on demande, j'en en peux plus, je demande la mort, comme Élie avait demandé, comme ici Job demande. Des fois, on demande toujours la mort. Et si j'arrêtais ce sermon-là, ce serait pas très positif quand même, hein. Mais heureusement, je ne m'arrête pas là. Il y a un quatrième point. Donc, je rappelle, le premier point, le désespoir peut nous laisser penser que nous sommes seuls face à nous-mêmes. Deuxièmement, le désespoir peut nous montrer que nous pouvons troubler notre vision de Dieu. Elle peut troubler notre vision de Dieu. Troisièmement, le désespoir peut nous laisser penser que la mort est la seule issue. Et quatrièmement, la réponse au désespoir. En fait, Job espérait avoir un défenseur dans le ciel pour prouver son innocence. Quand on lit les versets, chapitre 16, que je ne vais pas relire encore, on voit qu'il voulait vraiment être, il voulait quelqu'un qui le défende, une espèce d'intermédiaire entre Dieu et lui, pour pouvoir défendre sa cause. Il disait, c'est Dieu que j'implore avec larmes, puisse-t-il être l'arbitre entre l'homme et Dieu, entre le Fils de l'homme et son ami. Donc Job, en fait, pensait qu'il était le seul dans sa situation. Il pensait qu'il n'y avait que lui, en tant que juste, qui n'a pas fait de péché. Il pensait qu'il n'y avait que lui dans sa situation. Mais Job se trompait. Job n'est pas le seul juste qui a connu l'injustice. Job n'est pas le seul juste qui a été frappé par les hommes, maudit, qui a été vraiment insulté. Job devait savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui a connu pire que lui, c'est Jésus-Christ. Et pour cela, je vous invite à prendre votre Bible dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 15. C'est un peu long, excusez-moi. Marc 15 à partir du verset 16. Et nous pouvons garder toujours un œil sur Job chapitre 17. Marc chapitre 15 à partir du verset 16. Nous sommes vers la crucifixion de Jésus. Écoutons la parole de Dieu de Marc 15 à partir du verset 16. Les soldats amenèrent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et appelèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines tressée. Puis ils se mirent à le saluer, « Salut, roi des Juifs !» Et lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et fléchissaient les genoux pour se prosterner devant lui. Verset 20, après s'être moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Verset 21, ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire un vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort ce que chacun emporterait. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. Verset 26, l'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots, « Le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, « Il a été mis au nombre des malfaiteurs ». Les passants blasphémaient contre lui et secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix !» Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyons !» Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. À la sixième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » C'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et disaient, « Voyez, il appelle Élie !» Et l'un d'eux courut remplir de vinaigre une éponge, la fixa à un roseau et le donna à boire en disant, « Laissez ! Voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus jeta un grand cri, puis il expira. Comment les derniers instants de Jésus peuvent être assimilés à la situation de Job? C'est très simple. Quand on regarde ce passage de Marc et qu'on le lit à Job chapitre 17, on comprend plusieurs choses. Premièrement, comme Job, Jésus a été abandonné, mais vraiment abandonné, par tous ses proches amis. On ne l'a pas lu, mais dans le chapitre 14, Jésus est à Gethsémané, il prie l'Éternel, il prie le Seigneur. Et ensuite, il demande, il dit à ses disciples, « Venez, le Fils de l'homme va être livré. » Judas s'approche avec les chefs religieux, il lui fait le baiser de la trahison, et les soldats viennent saisir Jésus. Et là, on sait, il y a cette scène, il y a Pierre qui sort l'épée et qui tranche l'oreille d'un soldat. Et Jésus qui dit, « Celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. » Et donc, il remet l'oreille de ce soldat. Et ensuite, c'est marqué qu'ils ont tous pris la fuite. Tous ! Au verset 50 du chapitre 14, c'est écrit, « Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Les 11 sont tous partis. Le 12e, il était déjà parti, hein, c'était Judas. Mais les 11 sont tous partis. Ils se sont dispersés. Jésus était abandonné par ses propres amis au pire des moments, au moment où il allait mourir. Au moment où il a besoin de soutien, tout le monde l'abandonne. Donc Jésus a été abandonné, comme Job a été abandonné par ses amis. Jésus, c'est ce chef des peuples à qui l'on crache au visage, disait Job. Rappelez-vous, au chapitre 17, il dit, le Dieu m'a placé comme chef des peuples et c'est sur moi qu'on crache au visage. Et bien regardez, quand on a lu ce texte, on a craché au visage de Jésus-Christ. Et Job disait que son œil était obscurci par les inquiétudes. On ne l'a pas lu, mais dans les textes parallèles, encore une fois à Gethsémané, dans le jardin, Jésus pleure, il transpire, et on dit que c'est des gouttes de sang qui tombent, tellement la douleur est terrible. Il sent que c'est le moment où il va prendre la colère de Dieu à notre place. Il sait que c'est à ce moment-là où il va porter la condamnation de tous ceux qui croient en lui. Et le voir la coupe de colère, ça lui fait transpirer du sang. Tant la douleur est terrible. Il sait que la souffrance est là, la passion, le moment où il va connaître la plus grande des afflictions, ce que aucun homme n'a jamais vécu, il va le vivre pour tous ceux qui croient en lui. Et donc Job était affaibli par la souffrance. Jésus aussi est affaibli à cause des souffrances qu'on lui inflige. Par exemple, le verset 19 de Marc chapitre 15. Le verset 19, « Et il lui frappait la tête avec un roseau, crachait sur lui, fléchissait les genoux pour se prosterner devant lui. » On a maltraité le Fils de Dieu. On l'a frappé, on l'a insulté, on a craché sur lui, comme on a lu dans Ésaïe 53 tout à l'heure. Job disait dans le chapitre 17 qu'il n'y avait que des moqueurs autour de lui. Rappelez-vous, il disait, « Il n'y a que des moqueurs autour de moi. » Mais regardez Jésus-Christ, ce qu'on a lu, verset 29, « Les passants blasphémaient contre lui, secouaient la tête, disant, « Toi qui as détruit le temple, rebâtis-le en 3 jours, sauve-toi toi-même. » Verset 20, verset 31, « Les principaux sacrificateurs avec les scribes se moquaient et ils disaient, « Il a sauvé les autres, il ne peut même pas se sauver. » Tout le monde, sans exception, s'est moqué de Jésus. Tout le monde. Donc Jésus était entouré de moqueurs. Comme ses soutiens étaient partis, il ne restait plus que ses ennemis. Tous se sont moqués de lui. Sans exception. Et Job, comme on l'a dit, ressentait l'abandon du Père. Il ressentait l'abandon de Dieu. Il disait, Dieu m'a abandonné, et donc il voyait que Dieu était contre lui. Mais Jésus ressent aussi l'abandon du Père. Relisons encore ce verset 34 de Marc 15. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il faut faire attention, il faut bien comprendre ce passage. Ça ne veut pas dire que Jésus a senti que le Père l'avait lâché, c'était terminé. Non, Jésus est un être humain. En plus d'être Dieu, il est aussi un homme. Et donc il ressent l'abandon à ce moment précis où il est en train de supporter la colère de Dieu, le détachement, où vraiment Dieu le voit comme péché, et non comme pécheur, mais comme péché, c'est-à-dire tout le péché est sur Jésus, et Dieu déverse sa colère, et Jésus ressent l'abandon du Père. Donc quand on lit ça, Job 17 et Marc 15, on se dit, mais c'est la même chose, mais il y a une grande différence, une très très grande différence entre Jésus et Job. Job, lui, voyait que la mort comme la seule issue de son désespoir. Mais Jésus, lui, il sait qu'il reviendra à la vie. Il sait que cette situation, lui-même, il l'a voulu. Dans Jean chapitre 10, à partir du verset 17, il est écrit « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Jésus maîtrise la situation. Même si lorsqu'on lit ici, c'est vrai, Jésus a l'air affaibli, Jésus a l'air vraiment harassé, que Jésus ne maîtrise rien. Non, Jésus maîtrise la situation. De toute éternité, il a décidé, avec le Père, de donner sa vie pour les brebis de Dieu. Donc le désespoir de Jésus sur la croix, ce n'est pas la fin, ce n'est pas un échec. C'est le signe, comme je le redis encore, de sa véritable humanité. C'est le signe aussi que vraiment le poids des péchés est tellement lourd qu'il ressent ce détachement avec le Père pendant un instant. Et si Job, en fait, a subi toute sa souffrance, c'était tout simplement que Dieu voulait montrer au diable que son serviteur lui était vraiment fidèle, il était vraiment pieux. Et si Jésus subit ses souffrances, c'est pour montrer au monde que son serviteur est pieux et il est fidèle, mais c'est aussi pour prendre les péchés de Job et de tous les croyants de Dieu dans toute l'histoire. Donc vous et moi aussi. Jésus est venu racheter le peuple de Dieu de leurs péchés. Il est venu dans le monde pour sauver les gens de leur rébellion, de leurs péchés. Ces souffrances ne sont pas un accident. Ces souffrances sont volontaires. Quand il se fait cracher dessus, quand il se fait insulter, il le fait en pleine conscience des choses. Jésus a vécu la vie parfaite que personne n'a jamais vécue, ni moi ni vous. Et pourtant, il est mort de la pire des morts que tout le monde a mérité, moi tout comme vous. Et il l'a fait pour faire ce double échange, vous savez, pour que nos péchés soient sur ses épaules et que sa justice soit sur nous par la foi. Mais comme Jésus est quelqu'un de juste, il ne peut pas rester comme ça, il ne peut pas mourir, rester dans la tombe. C'est pour ça que 3 jours après, il revient à la vie. 3 jours après, avec puissance, le tombeau est ouvert et il monte au ciel et il s'assoit à la droite de Dieu en tant que roi des rois, seigneur des seigneurs. Et il intercède maintenant pour le peuple de Dieu. Jésus, c'est ce défenseur que Job cherchait. C'est lui que Job cherchait, c'est lui que Job voulait. Ce défenseur devant Dieu qui montre son sacrifice constamment devant Dieu, son sacrifice parfait où il a pris les péchés des croyants et il a donné la justice à tous ceux qui croient en lui. Jésus, c'est ce souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses, parce qu'il connaît, le désespoir, il l'a connu, il connaît l'abandon, il connaît la souffrance, Jésus. Et c'est lui seul qui l'a vaincu. Jésus, c'est ce grand prêtre qui a été tenté en toutes choses, comme nous, sans commettre de péché. Voilà la réponse au désespoir, c'est Jésus-Christ. Donc voilà, quand nous voyons ce texte de Job chapitre 17, quand nous voyons Marc chapitre 15, nous voyons vraiment comment le désespoir joue un rôle prépondérant dans la vie de ceux qui y sont touchés. C'est une arme puissante qui peut nous laisser seuls face à nous-mêmes, qui trouble notre vision de Dieu, qui pourtant est un Père aimant, qui peut nous laisser croire que la mort est la seule issue. Le désespoir qui a même atteint le Fils de Dieu, vous rendez compte? Le Fils de Dieu a été atteint par le désespoir. Mais pourtant, le Fils de Dieu a gagné. Il a remporté la victoire contre le péché, contre le désespoir, contre le diable. Le désespoir n'est pas la fin, car Jésus a triomphé. Le désespoir n'est pas la fin, Jésus a triomphé. Il a vaincu le désespoir. Il est ce défenseur vers qui il faut se tourner quand l'épreuve nous accable. Et pour terminer, nous allons lire un troisième texte, un texte que nous connaissons très bien, dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, à partir du verset 28. Romains 8, 28 et suivant. Romains 8, 28 et suivant. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose coopère ou concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui, par grâce? Et je m'arrête là, volontairement. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré lui-même pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui, par grâce? Dieu a livré son propre Fils. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Dieu a livré son propre Fils pour que nous ayons la vie. Il a fait subir le désespoir total, l'abandon, l'affliction pour que nous ayons la vie. Il l'a fait devenir péché pour que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous vous rendez compte? Comment donc va-t-il pas tout nous donner? Et des fois, quand on lit ce tout, quand on dit « comment nous donnera-t-il pas tout ?», on se dit « oui, Dieu va nous donner sa grâce, il va nous donner la joie, il va nous donner ses faveurs célestes. » Et c'est vrai, effectivement, Dieu va nous donner toutes ces choses, c'est vrai. Mais Dieu va aussi nous donner des afflictions, Dieu va nous donner des épreuves, Dieu va nous donner des moyens pour faire fructifier notre foi, des souffrances. Comme Paul disait, nous sommes devenus participants des souffrances de Christ. Effectivement, nous sommes devenus participants. Mais, rappelons-nous du verset 31. Dieu est pour nous. Dieu est pour nous. Il n'est pas contre nous. Il ne faut pas avoir cette mentalité qui peut nous faire penser que Dieu est notre ennemi. Dieu est pour nous. Personne ne sera contre nous. Donc, si vous êtes dans le désespoir actuellement, vous croyez en Christ, mais vous pensez vraiment que Dieu vous a abandonné, que Dieu vous a délaissé, que Dieu est contre vous, rappelez-vous de ces paroles. Rappelez-vous que Dieu n'est pas votre ennemi. Rappelez-vous que Dieu n'est pas ce tyran qui prend ses justes et qui brise la nuque. Non, Dieu est pour vous. Il ne peut pas être contre vous. Il a donné son propre Fils pour que vous ayez la vie. Il a donné son propre Fils pour que vous soyez sauvés. Comment pourrait-il être encore contre vous? Comme on l'a lu juste avant, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Ce sont des verbes au passé. Donc devant Dieu, vous êtes déjà dans sa présence. Vous êtes déjà dans ses mains. Il vous tient dans sa main, caché. Il vous protège. Mais Dieu veut aussi que vous grandissiez. Et vous donne ses épreuves, vous donne ses moyens, ses souffrances pour vous faire travailler et grandir dans la foi. Donc si vous croyez, vous êtes en Jésus-Christ, ne vous laissez pas avoir par le désespoir. Le désespoir n'est pas la fin. Criez à Jésus-Christ, tout comme Jésus a crié au Père. Criez à Jésus, il vous entend, il vous comprend. Venez à lui tel que vous êtes. Ne venez pas avec autre chose que votre cœur brisé. Et il prendra soin de vous. Et rappelez-vous de l'évangile de Jésus-Christ. Cet évangile qui est votre salut. Le psalmiste dit que quand on tourne le regard vers le Seigneur, on est rayonnant de joie. Psaume 34. Quand on tourne les regards vers le Seigneur, on est rayonnant de joie. Tournons nos regards vers le Seigneur. Et si vous ne connaissez pas encore le Seigneur Jésus, si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, peut-être vous dites que moi je ne veux pas croire en ce Dieu tyran. Je ne veux pas croire en ce Dieu qui est méchant. Je ne veux pas croire en ce Dieu qui a pris mes amis, qui a pris un tel. Je ne veux pas croire en ce Dieu méchant. Nous venons de lire que ce Dieu a donné son propre Fils. Son propre Fils. Comment ce Dieu-là peut être méchant? Ce Dieu qui a donné ce qu'il a de plus cher pour que vous veniez à lui. Alors, j'aimerais vraiment qu'à travers ce texte, vous ne pensiez pas que le désespoir c'est la fin. Mais que vraiment la solution est en Christ. Tournez-vous vers lui dans la repentance et dans la foi. Venez à Christ, c'est lui seul qui est la réponse à votre désespoir, à votre péché. Venez à Christ, car Christ est vainqueur. Et il a gagné, et il gagnera toujours. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, notre Père, tu es notre Père. Tu n'es pas notre ennemi, Seigneur. Tu es vraiment notre Père. Tu as donné ton propre Fils pour que nous ayons la vie. Tu as donné ce que tu as de plus cher afin que nous puissions revenir à toi. Nous qui étions fils et filles de la rébellion, nous qui suivions nos penchants mauvais, nous qui étions asservis par le diable et par ses artifices. Tu as donné ton Fils Jésus-Christ pour que nous ayons la vie. Ô Seigneur, tu vois les zones d'ombre que nous avons dans nos vies, tu vois le désespoir qui peut nous gagner parfois. Tu vois comment la souffrance peut nous affliger, la détresse peut nous atteindre. Tu vois combien les épreuves peuvent nous accabler, comment elles peuvent troubler notre vision que nous avons de toi, combien elles peuvent nous laisser penser que nous sommes seuls, qu'il n'y a personne autour de nous. Mais tu es là, Seigneur. Tu es avec nous. Tu es pour nous. Rappelle-nous cela, Seigneur, que tu es pour nous, que personne n'est contre nous. Rappelle-nous aussi que l'Église que tu as bâtie est ce lieu dans lequel nous pouvons trouver le réconfort, trouver le soutien, trouver la paix, trouver vraiment la joie. Et donne-nous aussi d'être des personnes qui écoutent, pas qui venons avec des doctrines toutes faites pour essayer d'accabler plutôt que de consoler ceux qui souffrent. Donne-nous un cœur, Seigneur. Donne-nous d'être compatissants, d'écouter. Donne-nous vraiment d'être tout simplement des disciples de Christ. Seigneur, s'il y en a parmi nous qui traversent des zones de désespoir, viens, Seigneur, à notre secours. Nous crions à toi et nous savons que tu es notre victoire. Car ton Fils, Jésus-Christ, a vaincu le désespoir. Il l'a cloué à la croix. Il a dit « Tout est accompli ». Et il est vainqueur et est à ta droite. Il intercède pour nous. Alors, donne à chacun de nous de tourner les regards vers lui afin d'être rayonnant de joie. Père, nous te remercions pour ta parole qui nous fait du bien et que seul ton nom soit glorifié à tout jamais. En Christ. Amen.